Voilà donc, bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Écoutez, aujourd'hui, justement, pour rendre justice à quelqu'un auquel la majorité d'entre vous, chères auditrices, chers auditeurs, si ce n'est pas la totalité, doivent beaucoup de respect, énormément d'estime, non pas pour le statut social de la personne en question, mais plutôt pour ses actions, ses principes hautement légitimes, une personne qui est prête à sacrifier entièrement sa vie pour le Québec et le peuple québécois. Aujourd'hui, je vous parle d'un homme très modeste, d'une grande simplicité, un homme intelligent, courageux, respectueux, et de là de tout, un homme soucieux pour la justice sociale, pour le bien d'autrui, pour le respect de l'autre. L'homme qui n'est pas gêné de dire hautement ce qu'il pense là où d'autres réfléchissent trois fois avant de dire un mot. Donc alors, il s'agit bien sûr de M. Amir Kadir, député de Québec solidaire. Et avant de vous dire pourquoi M. Kadir est aimé par presque tous les citoyens ici au Québec et ailleurs, j'aimerais vous raconter un petit événement dans lequel j'étais d'ailleurs présent et pour lequel évidemment je peux aujourd'hui témoigner. Donc je dirais il y avait environ 3 mois de là. J'étais présent dans une réunion et Amir Kadir faisait partie. Et ce dernier avait demandé, on parle d'un geste de consultation, l'avis des participants s'ils souhaitaient que la réunion déroulera en français ou plutôt en anglais, vu qu'il y avait justement parmi nous quelques personnes qui rencontraient, si vous voulez, certaines difficultés avec la langue de Molière. Et particulièrement, il y avait une personne d'origine iranienne. Et d'après ce que j'ai appris dans les minutes qui ont suivi la discussion, c'est une amie de longue date de M. Amir Kadir. Donc la dame en personne avait demandé que la réunion déroulera en anglais, et je ne veux pas non plus vous citer le nom de cette personne-là parce que je ne vois pas l'utilité, mais l'important c'est que je me souviens très bien que M. Kadir lui avait dit simplement: Madame, vous devrez apprendre le français puisque vous vivez au Québec depuis longtemps. Vous comprenez peut-être que la dame n'a pas apprécié l'intervention du tout de M. Kadir, et je vous assure que son visage est devenu rouge et elle a eu un vrai accrochage avec M. Kadir, notamment quand on lui a criblé de mots, et je cite: en signe de reconnaissance, madame, vous devrez apprendre la langue d'un pays qui vous a accueilli chaleureusement, qui vous a ouvert les bras, qui vous a offert la protection et dans lequel vous vivez en paix depuis des années et des années. Donc la dame en question avait fui le régime iranien pour trouver le statut de réfugié politique ici au Québec. Donc la dame avait encore moins admiré les propos de M. Kadir, des propos qui venaient d'un homme hautement sincère et préoccupant par tous les sujets de la société. Et j'ai vu dans la première fois, je dis bien la première fois, un homme d'engagement qui n'a pas froid aux yeux pour dire ce qu'il pense réellement, même si le prix à payer devra être très élevé. La dame en question, dans un orgueil un peu déplacé, si vous voulez, avait quitté sur le champ la réunion et M. Kadir venait justement de perdre une vieille amie. J'ai rapidement compris que j'étais devant une personne, je parle de Amir Kadir, qui défendait réellement les intérêts des Québec et les Québécois avec une grande sincérité, et Dieu seul sait de quelle manière. Donc maintenant, puis après quelques temps après, je dirais peut-être en mars de cette année-là, M. Kadir avait justement reproché à Jean Charest le fait d'avoir détourné des fonds fédéraux destinés à la francisation et l'intégration des immigrants au Québec. Et j'avais d'ailleurs aucune difficulté à mieux comprendre et saisir la sincérité de vouloir apporter des vrais changements et des améliorations sur le terrain de la province. Alors vous comprenez, chères auditrices, chers auditeurs, qu'il y a visiblement pas un exercice de comparaison entre Jean Charest et M. Kadir. La sincérité est trop accrue chez ce dernier pour faire un tel exercice. Maintenant, revenons à ce physicien, médecin spécialisé en microbiologie, ce émir qui veut dire prince, et il aurait pu mener une vie paisible avec sa famille, loin de toute l'hypocrisie de la politique. Qu'est-ce qui a mené justement cet homme à se livrer à des combats quotidiens qui l'ont amoché par endroits injustement? Alors il a choisi d'être un député. Un député, c'est quoi? C'est la personne qui devra rester en tout moment fidèle, représentant du peuple. Et c'est là la problématique de M. Kadir. Comment demeurer fidèle, représentant du peuple, de ce peuple qui a ras-le-bol? Comment pouvoir justement demeurer fidèle en entre deux forces qui se rejettent mutuellement, un groupe ou plutôt un gouvernement manipulateur, abusif et arbitraire en face d'un peuple insatisfait, en révolte 24 heures sur 24 heures. Comment être un député sans partager le souci et les inquiétudes des citoyens? Comment être un député justement loin des sentiments du peuple? Comment pouvoir remplir justement la fonction d'un député en temps ou en restant indifférent des quotidiens alarmants de la rue et de tous les jours? Le crime majeur, savez-vous, de M. Amir Kadir, c'était justement d'avoir dit à haute voix: moi, j'accompagne mon peuple. Je descends dans la rue pour rencontrer ce peuple-là, pour vivre avec ce peuple. Je vais marcher près de lui pour mieux le sentir et saisir sa douleur. Monsieur Kadir dit non quand le peuple dit non. Et il dit oui quand le peuple dit oui. C'est ainsi le malheur d'un député dans un gouvernement qui s'est distancié du peuple. Un gouvernement qui ne comprend même plus le langage du peuple. Mais au-delà de tout ça, est-ce que l'humiliation, la totale humiliation est le prix à payer pour un député qui a voulu être fidèle à son peuple? C'est la question de ce matin, une question qui sera posée à vous d'abord, chère auditrice, cher auditeur, et à mes invités par la suite, qui sont Julien Ficto, donc Robertson, c'est un étudiant à la maîtrise et en philosophie à l'Université de Montréal. Julien Ficto, il est associé, je pense, et affilié à la classe. Et j'ai aussi à côté de lui Madame Daer, donc Madame Perle Daer, c'est une simple citoyenne ordinaire qui adore à ses propos, qui adore notre député de Mercier. Et j'ai à côté de moi aussi Monsieur Roland Cazès, vous savez, c'est un militant de longue date. Donc voilà au micro avec vous ce matin Adji Zitouni, qui est président du mouvement Action Justice. C'est un organisme qui fait soi-disant la surveillance civile de nos institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer leur abus de pouvoir. Restez à l'écoute, chères auditrices, chers auditeurs. Après notre thème musical, nous revenons avec nos invités. Et cette fameuse question, qu'est-ce que les citoyens ont à nous dire de la fidélité d'un député, un seul député hors du commun, M. Amir Kadir? S'agit-il d'une humiliation, une atteinte à la dignité de cette personne de la part du gouvernement Charré, ou un honneur de l'avoir menotté injustement? Si c'est le cas, alors nous avons tous été menottés injustement. Restez à l'écoute, on revient avec vous après notre thème musical.
Formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme prison méritée reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la une. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et les portés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la une.
Donc voilà, rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice. C'est une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Et j'aimerais bien, au départ, remercier mes invités qui sont là aujourd'hui. Merci, madame Daher, d'être là. Monsieur Roland, je remercie pas parce que vous êtes toujours, vous êtes le coordinateur. Mais j'aimerais bien en particulier remercier notre invité, Monsieur Julien Fictot Robertson, vous êtes étudiant à la maîtrise en philosophie de l'Université de Montréal. Mm-hmm. Et c'est donc, vous êtes de l'association qui est affiliée
à la classe. Oui. Okay. Mais je ne suis pas représenté, je ne suis pas mandaté par la classe présentement. Non, mais je n'ai aucun poste.
Non, non, mais justement parce que quand je vous ai parlé, je vous ai bien éclairé comme quoi vous êtes un étudiant pour moi, c'est un citoyen avant tout. Mm-hmm. Et si je me permets directement, vous savez que toute la crise qui secoue le Québec aujourd'hui, elle a démarré, elle a commencé par cette demande de gel de frais de scolarité, okay, qui était le moteur déclencheur, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que je me trompe ou...
Non, non, pas du tout. Pas du
pas
tout.
Du tout, donc voilà. Pour vous, comme ailleurs, d'ailleurs, comme tous les étudiants, partagent l'idée que si le gouvernement, au départ, avait écouté les étudiants, s'il avait accepté de s'asseoir autour d'une table de négociation, s'il avait cherché de trouver des solutions, ne seront pas aujourd'hui à ce stade-là. C'est d'accord.
Absolument. Nous, au début, ben, en fait, moi, comme la plupart des étudiants, je crois, on pensait à une répétition du scénario de 2005, donc c'est-à-dire on part une grève, ça va durer quelques semaines, deux mois, tout au plus. Ouais. Le gouvernement va refuser de négocier avec la classe, va négocier avec les fédérations étudiantes qui sont, elles, plus modérées. Ils vont négocier une entente que certains vont trouver correcte, d'autres pas. Et après ça, tout le monde va retourner sagement en classe et la classe aurait été
marginalisée. Mais vous savez, comme moi, même si le gouvernement, il le redit toujours, qu'il a toujours souhaité s'asseoir, négocier avec les étudiants.
C'est complètement faux.
Mais c'est un faux. Comment vous expliquer ça?
En fait, je suis pas dans la tête de M. Charine, dans la tête de Mme Beauchamp à l'époque, ouais, mais en tout cas, leur stratégie cette année a été très différente de celle qu'il y avait eu en 2005. En fait, ils ont carrément attaqué la légitimité des associations étudiantes en disant aux professeurs, en donnant le mandat aux professeurs de franchir un épitage, de dire, ouais, ce n'est pas une grève, c'est un boycott. Ça, c'est un changement dans l'histoire du mouvement étudiant du Québec que le gouvernement et que les opposants, si on veut, non seulement ni la légitimité de la cause, mais en plus ni la légitimité de l'association qui défendait la cause, en disant les associations étudiantes ne devraient pas jouer des mêmes droits que les syndicats, par exemple. Donc, il y a une grève étudiante, parfait. Ce sera une décision individuelle que de boycotter ses cours, mais les professeurs devront les donner quand même. Ça, c'était du jamais
c'est
vu.
Aberrant, ouais.
Et c'est aberrant. Je veux dire, les syndicats ont fait face au même problème au cours du 19e siècle, 20e siècle.
Mais aujourd'hui, vous êtes certain, vous pouvez... On peut tous, par exemple, confirmer comme quoi le stratège du gouvernement, il a échoué, quoi.
Est-ce qu'il a échoué? Je sais pas, en fait. Je crois que lui-même ne le sait pas encore. Je veux dire, le but du gouvernement était de polariser, premièrement, de marginaliser les étudiants, évidemment, ce qui a plus ou moins marché, mais surtout de polariser les... les opinions dans la province pour se positionner, lui, en tant que gouvernement, comme ouais. défenseur de la loi et de l'ordre. Et ça, malheureusement, ça a des chances de marcher. Parce qu'on le voit de plus en plus. Donc, nous qui sommes contre la hausse des frais de scolarité, nous qui sommes pour la grève étudiante, on fait pas nécessairement l'unanimité dans la province, même si on est un mouvement d'envergure non négligeable. Mais en même temps, ceux qui appuient Charest l'appuient fortement parce qu'ils se posent en défenseur de la loi et de l'ordre. Est-ce que nous, on voit dans la rue à tous les soirs comme abus policier et comme abus politique de la part du gouvernement, les citoyens ordinaires ne le voient pas, malheureusement.
Mais si vous me permettez, Roland, avant, je vais vous céder la parole. Donc, jusqu'à présent, si tout le stratège est un petit peu échoué, donc il restait c'est le ton. Il joue sur le ton pour un petit peu dessouffler le...
Oui, c'est ce qu'il essaie de faire, oui, tout à fait. Avec la loi 118, comme vous savez, on va être obligé de reprendre les cours au mois d'août, mais ceux qui sont en grève sont obligés de prendre les cours au mois d'août. On pourra probablement pas faire de piquetage comme on le fait au début de la grève, parce que bon, les amendes sont beaucoup trop élevées et visent non seulement les individus, mais visent les associations étudiantes. Les représentants étudiants, même s'ils ne participent pas au piquetage, peuvent être tenus responsables du piquetage. Et les associations qui vont enfreindre la loi se verront couper les vies via la formule Rand, ce qui est absolument épouvantable. Il n'y a aucun syndicat qui laisserait faire ça. Et on laisserait faire ça, aucun syndicat non plus.
Et c'est la planification qui est déjà, d'ailleurs, elle est mise déjà en avance, hein, c'est ça?
Tout à fait. Alors là, évidemment, le gouvernement compte sur l'essoufflement du mouvement pendant l'été. Oui. Et nous autres, on va essayer de lui donner tort.
Oui. Roland, vous avez voulu dire quelque chose? Oui.
Je m'excuse, je voudrais parler des vraies choses. J'ai remarqué que le gouvernement fait de la publicité à la télévision, qui lui coûte encore un bras. OK. Naturellement, ça, c'est pour les petits amis. Mais on va essayer de savoir une chose. Ce n'est pas 50 cents par jour. Moi, ce que je voudrais qu'on mette, c'est combien ça coûte à un étudiant, combien doit-il rembourser à la fin de ses études. Est-ce que c'est 25 000, 35 000? C'est ça qu'il faudrait qu'on affiche à la télévision, M. Charest.
Ah, mais ça dépend de chaque étudiant. Il y en a qui s'endettent, il y en a qui ne s'endettent pas, il y en a qui ont l'argent, donc ils n'ont pas à s'endetter. Il y en a qui vont devoir faire affaire avec les prêts et bourses, d'autres pas, donc ils vont pouvoir rembourser plus vite en raison d'un plus gros salaire et tout ça. Donc ça dépend vraiment de chaque étudiant. Mais effectivement, l'argument de 50 cents par jour, c'est absolument ridicule. Parce que je veux dire, non, ça ne coûte pas 50 cents par jour aller à l'école. Voilà. C'est 50 cents de plus par jour par année. C'est une augmentation sur des frais scolarités qui sont déjà assez imposants. Je veux dire, moi, mes frais scolarités représentent une partie non négligeable de mon budget annuel. Et pourtant, je ne suis pas un étudiant qui est sur la paille. Donc, mais l'argument de 50 cents par jour, c'est absolument ridicule.
C'est ça. Oui. C'est une fausse publicité, dans le fond. Parce qu'il est encore en train d'essayer de diviser le monde et ils n'arrêtent pas de diviser. Ils ont divisé les études. Ils ont essayé, du moins, avec des termes tels que « entente ». Mais moi, si je prends un dictionnaire, comme l'avait dit Mme Desjardins, puis Mademoiselle Desjardins, puis je l'admire pour ça, parce que c'était réel, « entente » pour moi, c'est signé par tout le monde, et non pas par juste des représentants. Moi, ce que j'estime, que ces gens-là ont une qualité de négociateur, ont un mandat, et ainsi de suite. Mais « entente » pour moi, c'est réglé. Alors, M. Charest avait besoin de ce mot entendre pour faire entendre ça à ces gens, comme quoi il avait réglé le problème étudiant.
Mais il y a une pléthore de mots qui ont été, dont le sens a été trahi dans toute cette crise-là. Et je veux dire, c'est fou comment le débat est devenu sémantique. Vous parlez d'entente, il y a aussi le mot violence, qui a été absolument abusé. Le terme, bon, grève et boycott, évidemment, a aussi été galvaudé de façon complètement abusive.
Oui. Mais M. Robertson, j'aimerais bien revenir maintenant sur les Donc, les étudiants, ils avaient d'ailleurs pris tous les moyens pour essayer de faire entendre leur voix, mais on sent que cette voix-là, elle n'est pas rendue. Hein, elle est pas,
non, tout à fait. Et je veux dire, je m'excuse, je ne suis absolument pas un défenseur de la casse et de l'illégalité. Ouais. Mais je veux dire, quand tous les moyens par les associations étudiantes vont. On dit la grève a commencé en 2012. Oui, c'est vrai, en même temps, ce n'est pas vrai. Je veux dire, la contestation de la hausse des frais de scolarité a commencé à la fin 2010, après l'échec, si on veut, de la rencontre des partenaires de l'éducation, qui était une arnaque monumentale. Oui. le gouvernement justifie sa hausse de solidarité en disant qu'il a consulté tout le monde. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il a consulté tout le monde en partant avec la prémisse qu'il allait avoir une hausse et qu'on allait discuter du montant de la hausse.
Ouais.
Et ils sont basés, ils ont carrément parlé de consensus, un autre mot qui a été trahi, ça, consensus. Je veux dire, un consensus sur la question de l'éducation qui exclut les étudiants et qui exclut les syndicats de professeurs, mais en fait, qui exclut les syndicats et les professeurs, je veux dire, c'est complètement aberrant.
Ouais.
Et donc, là, et nous, notre mouvement a commencé là, en décembre 2010. Donc là, il y a eu des pressions qui ont été faites sur les politiciens, il y a eu des campagnes qui ont été lancées. On a fait le tour de l'association étudiante, on en a parlé, on a produit des documents d'information, on a produit des mémos, et une quantité impressionnante d'études, de recherches pour démontrer comment cette hausse des frais de scolarité-là n'était pas justifiable. Et évidemment, personne ne nous a écouté.
Exactement.
Donc la grève, ce qu'il faut comprendre, ce qu'on répète toujours, c'est que c'est un moyen de dernier recours.
Voilà.
Mais le dernier recours, on en était rendu là. Et là, on se rend compte que même cette grève-là ne nous a pas permis d'atteindre nos objectifs dans des délais raisonnables. Je veux dire, on est encore là après 3-4 mois de grève. Donc là, on fait des grosses manifestations et des encore plus grosses manifestations. On produit encore d'autres documents. Je veux dire, les négociateurs de la classe et des fédérations étudiantes et de la TASEC font un boulot formidable pour trouver d'autres alternatives à la hausse des frais de scolarité. Et évidemment, on fait encore la sourde oreille.
Oui, mais voilà. Justement, parce que vous avez parlé de manifestations, protestations, les moyens, les étudiants ont pris tous les moyens nécessaires pour faire entendre leur voix. On parle aussi de la fameuse manifestation
Il y a eu 22 mars, ensuite 22 avril, ensuite 22 mai, il y en a une autre.
On parle de 200 000, 300 000 participants, c'est quand même beaucoup. Hein. Alors maintenant, quand le gouvernement fait le sourd oreille et tout, alors vous avez passé à quelque chose qu'on appelle la désobéissance civile, c'est ça? J'aimerais bien savoir...
Non, mais c'est parce que vous dites vous, je veux dire le.
Non,
le
pas je, vous, non, je
non,
parle
non,
de.
Non, 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 mais c'est parce que. Là, ce que je vous ai raconté comme cheminement que les associations étudiantes ont fait, justement, c'est le mouvement étudiant qui agit. Or, la désobéissance civile, c'est généralement. Ce sont des décisions individuelles.
Voilà.
On ne force personne à poser des actes de désobéissance civile. Je sais que la classe a appelé à désobéir à la loi 78. On le fait tous les soirs quand on va manifester.
Ouais, mais moi je voulais dire simplement, si vous me permettez, c'est-à-dire la population, si vous voulez, parce que les étudiants sont une partie de la population, sont poussés à arriver à ce stade-là, de déclarer la désobéissance civile. C'est ça.
Et d'ailleurs, on a parlé de trahir le sens des mots. Je veux dire, quand j'entends le ministre de la Justice, Jean-Marc Fournier, qui disait désobéissance civile, c'est un synonyme de vandalisme,
voilà.
Ce qui est totalement faux.
De violence.
Je veux dire, je sors dans la rue avec plus que 50 personnes, j'ai fait une manifestation, je ne donne pas mon trajet, je désobéis civilement.
Oui.
Je conteste publiquement la loi 78, je désobéis civilement.
Oui.
Mais j'ai jamais fait de casse.
Voilà. Alors,
mais et que le ministre de la Justice aille dire ça, pour moi, c'est une preuve d'incompétence.
Il se sert des étudiants pour faire porter l'odieux sur le dos des étudiants.
Oui,
et c'est ça la vision de M. Charest. Elle n'est pas haute, sa vision. Elle est très basse.
Oui.
Moi, ce que je prétends, que cet homme-là a passé une loi. Et notre Constitution est mal faite. Parce que s'il suffit de passer une loi chaque fois pour contrer un point dont les gens ne sont pas d'accord avec nous, on n'a pas fini de sortir des lois, on va en avoir toute une constitution tout à l'heure.
Oui, mais monsieur, je reviens avec vous, monsieur Robertson, à propos de maintenant le rôle des députés. Hein, c'est député, comme je l'avais déjà souligné, comme quoi le député, c'est vraiment quelqu'un qui représente, si vous voulez, le peuple, pas une partie du peuple. Je suis d'accord, vous m'avez dit pas tout le peuple, mais une partie du peuple.
Mais
le rôle d'un député qui est à l'Assemblée nationale, et celui, comment vous voyez le, par exemple, la position de l'opposition de certains députés, on passe directement au député Amir Kadir, son action. Justement.
Ben en fait, je veux dire, le système parlementaire tel qu'il fonctionne actuellement est complètement burlesque, comme le disait si bien M. Roland tout à l'heure.
Oui.
Donc, le rôle du député, c'est un peu bizarre, parce que oui, comme vous le disiez, ça doit être le représentant du peuple. Il y a 125 personnes présentement à l'Assemblée nationale qui prétendent représenter le peuple. Vous dites que c'est M. Kadir, Mme Beauchamp prétendait que c'était elle, tout ça.
Non, mais le rôle de chacun, hein, celui qui a qui s'est levé de son siège, il était allé vers le peuple, s'asseoir avec le peuple, c'est jusqu'à cette immédiat. façon que j'avais souligné dernièrement, vous avez vu que Amir Kadir a été menotté, humilié.
Mais ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que c'est quand même, je veux dire, ceux qui vont manifester, oui, font partie du peuple, mais ça reste une minorité qui va manifester.
Oui.
La majorité du peuple québécois ne va pas manifester. Elle reste chez elle. Souvent, elle ne vote pas. Elle ne se prononce pas sur les grands enjeux de société.
Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont opposés.
Non, tout à fait.
Ouais, ça ne veut pas dire qu'ils sont opposés. C'est des gens qui ne veulent pas se déplacer. C'est une habitude, malheureusement, qui est comme ça, mais qui partagent et qui appuient indirectement.
C'est pour ça que moi, autant quand ça vient du gouvernement libéral que de l'opposition péquiste ou solidaire, quoi que ce soit, de se prétendre représentant de ce peuple-là qui ne se prononce pas, moi, je trouve ça problématique.
Ouais. Alors, on va juste faire une petite pause musicale et on va revenir avec vous dans quelques instants. Restez à l'écoute, chers auditrices, chers auditeurs. Voilà donc, rebonjour chers auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors je reviens avec vous,
Robertson.
Voilà, Robertson.
Oui, c'est ça.
J'aimerais bien revenir avec vous. Quand Amir Kadir dit qu'en loi est aussi injuste et moralement il est juste de la défier. Hein,
Mais je ne sais pas s'il a dit ça exactement.
Ouais, c'est ce qu'il a dit. Quand une loi est aussi injuste, il est moralement juste de la défier.
D'accord.
Oui, c'est ce qu'il a dit, oui.
OK. Oui, tout à fait. En fait,
on fait référence à la loi 78, bien sûr.
Oui, tout à fait, qui est une loi qui, je veux dire, qui est très clairement anticonstitutionnelle, et je crois que même les gens qui l'ont élaborée dans le secret le savaient. Sauf que c'est une loi qui a été votée pour régler une situation bien précise, donc le temps qu'elle soit invalidée, son effet va déjà avoir été appliqué, malheureusement. Mais oui, écoutez, je fais partie d'une certaine gauche modérée qui essaie de faire attention avec les mots.
Oui.
Et souvent, quand je parle à des gauchistes qui sont plus radicaux que moi et que je les entends employer le terme fascisme à tort et à travers, souvent, je les remets à leur place. Par contre, j'ai regardé ce projet de loi-là et je suis forcé de le dire qu'il y a vraiment des éléments de fascisme là-dedans. On stigmatise vraiment une partie de la population, on la traite avec mépris, on institutionnalise ce mépris-là politiquement et on condamne judiciairement la dissidence politique. Je veux dire, il y a des éléments de fascisme là-dedans. On justifie la répression policière sur des gens qui sont pacifiques. Je veux dire, c'est complètement abusif là-dedans.
Mais défier cette loi-là, est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est justifiable?
Oui, tout à fait, mais le terme défier, malheureusement, est encore un peu vague. On peut défier seulement avec des mots. Mais en tout cas, il y a des éléments de cette loi-là qui font en sorte que même la défier avec des mots, et c'est déjà aller à son encontre.
Mais rien qui montre, comme quoi, par exemple, je reviens toujours à Amir Kadir, l'exemple d'Amir Kadir, rien qui montre que Amir Kadir, il défie cette loi par une certaine violence ou par quoi que ce soit.
Non,
ce genre-là,
vous
comprenez?
Défier, il conteste cette loi-là. Oui. Monsieur
Hernand, il y a une différence entre contester et défier.
Voilà.
Personnellement, je peux m'opposer à la loi sur la prohibition du cannabis. Je peux la contester.
Oui.
Ça ne veut pas dire que je vais en fumer chez moi. Je peux respecter la loi tout en la contestant. Par contre, défier la loi, c'est l'enfreindre sciemment.
C'est l'acheter, quoi.
Et quand la loi 78 a été votée, Amir Kadir a simplement invité à réfléchir à la désobéissance civile. Donc, par la suite, je ne sais pas s'il applique plus clairement à la défier, mais au début, c'était simplement une réflexion qui a amené.
Mais c'est ça ce qu'il a dit, oui. Mais justement, il encourage même les citoyens de défier cette loi-là, de ne pas la respecter, si vous voulez.
Par ses actions lui-même, en ayant participé à une manifestation qui savait être illégale tout en étant pacifique et légitime, c'est clair qu'il a...
Mais si on écoutait les libéraux, il faudrait manifester dans son salon. Alors, d'ici là, les libéraux repasseront pour les prochaines élections. Je pense que le monde va se charger de coups de pied ailleurs, plus bas que le dos. Là,
mais vous parlez justement de quelque chose d'illégal, alors qu'on sait, qu'on voit, comme quoi toutes les manifestations qui se fassent tous les soirs depuis plus que 3 mois, ils sont déclarés illégales, mais la police
En fait, les manifestations tous les soirs, ça fait seulement, c'est la 52e.
C'est ça, c'est beaucoup.
Oui, mais c'est pas plusieurs mois, c'est un mois et demi jusqu'à présent. Mais oui, effectivement.
Vous parlez de nocturnes, les
manifestations nocturnes. Depuis la loi 78, elle commence par un avis d'illégalité.
Non, mais ils sont déclarés illégales, mais ils sont toujours...
C'est surréaliste, je veux dire.
C'est ça.
Mais puis, moi, un des trucs qui me fait le plus de peine là-dedans, c'est que toute la notion de légalité en prend pour son rhume. Parce que, je veux dire, moi, avant la grève étudiante de 2012, j'étais un citoyen très respectueux des lois.
Oui.
Je veux dire, je considérais, bon, j'en ai enfreint quelques-unes dans ma vie, mais règle générale, je considère qu'une loi est là pour être respectée.
Tout à fait. Oui.
Sauf que depuis le début de la grève, il y a
une loi qui a un peu de sens, quoi.
Oui, mais même si on m'arrive avec une loi dont je ne connais pas la raison, je veux dire, a priori, je me dis, il y a peut-être une bonne raison de la respecter.
Exactement. Oui.
Sauf que depuis cette grève étudiante-là, j'ai commis tellement d'actes qui me semblaient légitimes, normaux et sains et nécessaires qu'on m'a avisé qu'ils étaient illégaux, que ça s'en vient ridicule.
Ouais.
Et c'est ça qu'il va falloir que les policiers comprennent à un moment donné, c'est qu'ils nous demandent de faire des choses tellement absurdes, ils nous ordonnent des choses tellement absurdes à chaque début de manifestation, à chaque manifestation, qu'à un moment donné, ils perdent la crédibilité.
Quand
on commence chaque manifestation en disant ce que vous allez faire est illégal, mais nous allons le tolérer.
C'est absurde. Et justement, revenons à ça, quand Amir Kadir, justement, est parti avec cette idée-là que même si elle est déclarée légale, cette contestation, elle est toujours tolérée, puisqu'il y avait, elle est dans le calme et tout. Je pense qu'il est parti dans cet esprit-là. Je ne sais pas.
Mais
l'humiliation, pour vous, là, pour vous, est-ce que c'est un geste d'humiliation de la part des commandes, parce que les policiers, ils étaient quand même, selon à l'égard de M. Kadir, ils étaient quand même respectueux.
Je pense que ce que M. Kadir a vécu, c'est ce que tous les manifestants ont vécu depuis le début. Je veux dire, moi, j'ai été arrêté une fois, j'ai regardé l'arrestation d'Amir Kadir, ça ressemblait à la mienne, avec quelques insultes en moins, je crois. Mais moi, ça me rassure personnellement de savoir qu'un député peut être arrêté comme un simple citoyen.
Tous les députés. Pourquoi pas tous les députés, par exemple? Particulièrement celui-ci?
En fait, on parle de désobéissance civile. Excusez-moi, c'est que les casseroles aussi, c'est une forme de désobéissance civile.
Tout à fait.
Il y a des députés péquistes qui ont participé participé à des mouvements de casseroles et qui, eux, n'ont pas été arrêtés. Oui. Par contre, les manifestations illégales, elles, sont passibles d'arrestation.
Donc, dans ce cas, il faut arrêter tout le peuple de...
Je m'excuse, il y a une question qui m'intrigue.
Oui.
Alors, n'importe quel, le premier ministre de la province de Québec peut être arrêté aussi.
Mais là, c'est... Oui.
Alors, lorsqu'il est de collusion avec la mafia, on devrait pouvoir l'arrêter et le mettre en prison.
Il n'y a aucune preuve qui ont été faite à cet effet.
Il ne peut pas trouver de preuve. Il sait comment se dérober de tout ça.
Madame Daher, j'aimerais juste revenir avec vous maintenant. Vous avez voulu dire, vous êtes ici parce que vous êtes une personne qui adore Amir Kadir. Pourquoi vous aimez cet homme-là?
Voilà, le problème, c'est que moi, j'ai... Le problème, c'est que c'est parce que je l'ai suivi avant son élection.
Okay.
Et j'étais très intéressée par cette nouvelle figure, tellement enthousiaste, tellement près du peuple, surtout sociable.
Oui.
J'ai senti en lui que lui aussi avait passé par des épreuves peut-être injustes dans son pays.
Oui.
Alors nous aussi, comme immigrantes, comme ayant subi moi aussi des injustices dans mon pays, et en venant dans un pays libre, là, soi-disant libre, eh bien, j'étais vraiment fier qu'il a été élu.
Oui.
Et depuis son élection, je l'ai suivi pas à pas dans tous les journaux, les nouvelles.
Pour vous, c'est une énergie nouvelle
Une nouvelle énergie, disons, un nouvel espoir pour la jeunesse, pour le peuple québécois, et je crois pour tous les peuples qui aimeraient avoir un député comme lui.
Oui.
Je prie de tout mon cœur et vraiment je souhaite que dans chaque province, dans chaque ville, qu'il y ait un monsieur député comme monsieur Amir Khadir.
Oui.
C'est un monsieur honorable.
Oui.
Et j'ai été choquée de ce qui s'est passé. Mais ça a été une leçon pour nous quand même de voir comment les gens qui font du bien, qui sont près du peuple, ils sont assaillis par des injustices qui viennent de haut, du gouvernement qui veut absolument mettre le peuple contre les personnes qui sont là pour nous aider. En plus, ce n'est pas seulement la grève étudiante qui est en jeu, c'est toutes les associations communautaires comme le FRAPRU qui réclame maintenant une grève illimitée contre le gouvernement. Pour les logements sociaux, pour tout ce qui se rapporte au peuple. Le peuple en aura le bol.
Oui. Mais maintenant, je reviens avec vous, M. Robertson. Est-ce que pensez-vous qu'on a besoin, dans l'Assemblée nationale, de députés tels que M. Amir Kadir?
Ben, c'est évident que, je veux dire, qu'on parle de faire de la politique autrement. Pas seulement Amir Kadir, parce que oui, en tant que député, en tant que personnage...
Non, cette énergie, là, elle est un petit peu différente.
C'est vrai, mais pour moi, je veux dire, et je crois qu'il serait d'accord avec moi, c'est pas seulement Amir Kadir, c'est l'ensemble du programme, du projet de Québec solidaire.
Ah, tout à fait. Ouais,
qui est quelque chose de radicalement nouveau au Québec, et qui, moi, je trouve ça un petit peu paradoxal, souvent, quand j'entends les gens dire qu'ils sont tannés de la vieille politique, des vieux partis, de la politique, et souvent quand je parle à des gens qui veulent des idées nouvelles, qui veulent des projets nouveaux, pas seulement des projets de société, mais une façon différente de faire la politique.
Et comment l'appliquer aussi, et comment avoir le courage de le faire aussi.
Et Québec solidaire, on a beau être d'accord ou pas d'accord, ils ont quand même le courage d'apporter des solutions qui sont originales, novatrices, et progressistes, tout en étant pas nécessairement radicales ou fabulatrices ou quoi que ce soit.
Vous sentez pas qu'il y a une sincérité avec ce député-là, par exemple?
Écoutez, la sincérité, le jour où on me donnait un instrument qui est capable de la mesurer, je vais être très heureux. Je pense qu'il y a 125 députés présentement à l'Assemblée nationale. Les 125 prétendent représenter le peuple et les 125 prétendent être sincères. C'est sûr que vous et moi, on suit plus la carrière de Kadir que celle de...
Ah non, je suis pas la carrière de Kadir, je suis désolé, mais moi, je vois l'action des gens devant moi. Je vois l'énergie, je vois des choses qui sont nouvelles. Hein, c'est ça qui est important.
Mais il y a une chose qui m'a déçu beaucoup.
Oui.
Moi, j'estime que quand le peuple réclame justice, il faut donner des leçons au gouvernement en place. Quand le peuple se révolte, parce que j'appelle ça une révolte, de différents degrés, naturellement, comment se fait-il qu'Amir Kadir ne se soit pas joint à un parti un peu plus fort de façon à pouvoir déloger les circonscriptions soi-disant château fort? Moi, ça me pèle le jonc quand j'entends dire un château fort libéral. Ça, c'est une façon de faire pour faire voter des ignorants pour être gagnant de leur élection.
Mais ce dont vous parlez, c'est un des projets qui a été amené pour être certain de battre Jean Charest aux prochaines élections, c'est de faire une alliance dont la forme reste encore à définir entre les différents partis progressistes, le PQ, Québec solidaire et Option nationale, qu'on oublie trop souvent. D'ailleurs, depuis tout à l'heure qu'on parle façon différente de faire de la politique et de comment Amir Kadir amène un vent de fraîcheur. Il y a aussi Jean-Martin Haussan de Front National qui fait un très bon travail à cet égard-là et qui, bon, lui aussi nous a appuyés dans nos revendications depuis le début, qui a une position beaucoup plus claire et progressiste que le Parti québécois sur ce dossier-là. Je veux dire, je pense pas que ce soit le moment présentement d'en déclencher une discussion sur une alliance électorale. Ça pourrait durer très longtemps et être très intéressant.
Mais ne serait-ce que pour des élections partielles. Non, oui, ça n'engage à rien, mais ça donne une leçon au gouvernement, ça donne un message au gouvernement. Et je trouve que c'est là la gaffe qu'ils n'ont pas fait, et je trouve qu'ils n'ont pas de stratégie politique de ce côté-là.
Sur ça,
ils déçoivent aussi bien le PQ que de l'autre bord.
Voilà, sur ça, on va prendre une petite pause musicale, une brève, et puis on va revenir avec le reste de notre émission d'aujourd'hui.
Je suis né dans misère, j'ai vu l'espoir se pendre. J'ai pris des forces, j'ai dit au boss de moi un bout de viande. Il m'a dit, ferme ta gueule, travaille ou sinon je t'étripe. Fait qu'avec mes 12 tribus, on s'est enfui d'Égypte. On a partagé nos malheurs en guise de repas. Puis j'ai parlé d'une vie meilleure à ceux qui y croient pas. Effectivement, on m'a pas cru, on m'a même renié. Même une fois, on m'a vendu pour à peine 30 deniers. Mais je suis encore revenu, puis j'ai poursuivi ma lutte sous la bannière d'une étoile et d'un croissant de la lune. Du passé au futur, moi j'ai toujours eu le même but. J'te la fous, t'es un ennemi si un jour tu m'aimes plus. J'ai trop souffert, on m'a déraciné de ma terre natale vers un nouveau monde enchaîné à fond de cale. Mais je me suis nourri de ma haine, j'ai pas attendu qu'on m'aide. Arrivé à Saint-Domingue, j'ai abattu mon maître. Comme j'ai buté mon roi, j'ai imposé la terreur. Je suis allé un peu loin, le peuple m'a rappelé mon erreur. On m'a guillotiné, je le méritais peut-être. Dans ma soif de vengeance, j'ai pris d'innocentes têtes. J'ai voyagé à travers la planète et les époques. Et partout où je suis passé, on m'a appelé révolte. On a souvent ramassé mon corps à petite cuillère. Mais je suis vivant aujourd'hui aussi fort que hier. J'ai voyagé à travers la planète et les époques. Et partout où je suis passé, on m'a appelé révolte. On a souvent ramassé mon corps à petite cuillère. Mais je suis vivant encore plus fort que hier. Face au poids de l'injustice, toujours aussi pesant. Un jour j'ai brandi un drapeau rouge comme le sang. Je me suis propagé comme le vent à travers les taudis. J'ai annoncé un terme au temps des colonies. Je me suis présenté, coiffé d'un kéfier. Dans une main un fusil, dans l'autre un rameau d'olivier. On m'a fait croire que la paix était possible. J'aurais dû m'écouter puis me faire sauter au milieu du G8. J'ai vécu dans le maquis sur un sentier lumineux. C'est loin des sales profits, des sorts bitumineux. Pour me financer, des fois j'ai oublié mes convictions. J'ai vécu de la drogue, du vol ou de l'extorsion. Mais quand l'argent étouffait ma conscience, je venaissais comme par hasard dans la maison de celui que j'exploitais. Fâche une réaction face à tout ce qui m'écœure. Et l'homme étant ce qu'il est, je supporte jamais le vainqueur. J'ai voyagé à travers la planète et les époques. Et partout où je suis passé, on m'a appelé révolte. On a souvent ramassé mon corps à petite cuillère. Mais je suis vivant aujourd'hui aussi fort que hier. J'ai voyagé à travers la planète et les époques. Et partout où je suis passé, on m'a appelé révolte. On a souvent ramassé mon corps à petite cuillère. Mais je suis vivant encore plus fort que hier. Aujourd'hui, c'est au plus de liberté qu'il y a 1000 ans. C'est que j'ai pas vraiment laissé le choix aux dirigeants. C'est que je suis mort des milliards de fois dans l'indifférence. Même parfois, vous étiez complice par votre silence. J'ai fait face à mon destin, fièrement comme un apache. Quand on me tirait dessus de Saint-Denis à Saint-Eustache. J'ai jamais hésité à poser des bombes. J'en ai même posté dans les boîtes à mal de Westmount. J'ai toujours pris parti pour les enfants des favelas. On m'a appelé Gandhi, Nasser ou Mandela. J'ai écrit ce que je pensais sans demander l'avis du pape. J'ai écrit la terre est ronde comme j'ai écrit du rap. Sur un beat d'ordinateur, j'ai vomi toute ma colère dans un rôle d'agitateur que la police tolère. J'ai jamais eu peur d'affirmer mes opinions. Je suis conscient que ma fonction première, c'est de prendre position. Maintenant, tu vois des clowns, mais ils sont pas de mon clan. Le gros, les gosses prennent pour moi, mais ils ont pas mon cran. Ils sont faciles à reconnaître, ils font des feats ensemble. Moi, j'ai toujours envie de réduire leur carrière ensemble. J'ai voyagé à travers la planète et les époques. Et partout où je suis passé, on m'a appelé révolte. On a souvent ramassé mon corps à petite cuillère. Mais je suis vivant aujourd'hui aussi fort que hier. J'ai voyagé à travers la planète et les époques. Et partout où je suis passé, on m'a appelé révolte. On a souvent ramassé mon corps à petite cuillère. Mais je suis vivant.
Je vous reviens.
Voilà, donc bonjour chère auditrice, chère auditrice, pardon. Vous êtes toujours en direct, comme j'ai dit, sur les ondes de Radio Centre-Ville avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir, les injustices de notre société contemporaine. Et j'aimerais bien, monsieur, vous reposer la question, plutôt de poser une question. Est-ce que, selon vous, Amir Kadir incite à la violence?
Ben, la réponse simple, c'est non, évidemment non. Oui. La réponse la plus complexe, c'est qu'il faudrait définir ce que c'est que la violence. Depuis le début du conflit, je parlais tout à l'heure de détournement de sens de la part du gouvernement et des militants. Le terme violence est utilisé à tort et à travers ici et là.
Non, mais trouver toutes des excuses, les détails, vous savez, cette histoire de l'étoile, rentrer chez Amir Kadir dans sa cuisine et découvrir ça, le mettre dans la première page du journal.
Mais bon, personnellement, je veux dire, ce pastiche d'une toile de la croix, la liberté menant le peuple, c'est un groupe de musique marginal, alternatif, qui a repris cette toile-là, qui a mis la face d'Amir Kadir sur le corps d'un révolutionnaire avec un fusil et à ses pieds un cadavre où on a mis la figure de Jean Charest.
C'est
esthétiquement très questionnable et très douteux.
Oui.
Maintenant, est-ce qu'on peut parler d'appel à la violence? Oui, on peut aussi parler d'une œuvre d'art qui se veut caricaturale. Mais bon, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est pas Amir Kadir qui a fait ça. C'est un groupe de musique qui a fait ça. C'est une des filles d'Amir Kadir qui a acheté ce poster-là, qui l'a amené chez elle, dans son domicile. Oui. Et les policiers sont venus perquisitionner, ont ramassé ça. Et là, ça fait la une des journaux. Ouais. C'est absurde.
Mais c'est ça ce que je voulais dire, c'est-à-dire les policiers, quand ils sont rentrés, ils cherchaient vraiment la moindre chose.
Oui, c'est ça.
Non, je pense pas que les policiers. Écoutez, je vais dire comme M. Kadir. On n'est pas dans la tête des policiers. Ces gens-là avaient un mandat de perquisition. Ouais. Paraîtrait-il qu'ils n'ont pas été très respectueux de la famille Kadir. Bon, les policiers sont rarement respectueux ces temps-ci, malheureusement, et c'est à dénoncer. N'empêche que je pense pas qu'on puisse leur prêter de telles intentions. Je pense pas que les policiers.
Partir avec la toile pour vous, c'est pas.
Vous dites c'est ainsi, les policiers ne sont pas respectueux. Ils ne sont pas respectueux à longueur d'année.
Oui.
Et nous voyons les cas, nous, de gens de 68 ans, des femmes 68 ans, les dents cassées, la face noire, l'œil noir, des messieurs de 72 ans handicapés. Non, les policiers ne respectent pas la situation.
Rétablir les faits, les policiers ne sont pas partis avec le poster.
Voilà.
Ils l'ont laissé là, mais ça a fait ça s'est ramassé dans les journaux par la suite. Là. Mais ils ont laissé le poster-là, ils n'avaient aucune raison de le ramasser. Ce qu'ils ont ramassé, c'est des effets personnels de la fille de M. Kadir, qui pouvaient l'incriminer par rapport à de la casse qu'il y avait eu dans le bureau de la ministre Beauchamp.
Tout à fait, oui.
Donc, et ça, je veux dire, jusqu'à...
Ils n'ont pas le droit.
Mais
ils ont le droit. Oui, ils ont le droit. Ils avaient un mandat de perquisition. Ils avaient ce qu'ils pensaient.
Mais de qui ils ont eu ça?
Non, mais excuse-moi, madame Lair. Je reviens toujours à l'idée d'essayer de faire inciter comme quoi Amir Kadir est quelqu'un de violent, quelqu'un d'anarchiste.
On en parlait tout à l'heure. Je veux dire, j'ai des amis dans la gauche plus radicale, si on veut, qui mettent en lumière le fait que, bon, Jean Charest lui-même, quand le premier ministre prend le temps de condamner un groupe de musique marginale,
on a besoin
d'avoir des paroles violentes. Il faut savoir, bon, mise en demeure est
Saint-Jean-Baptiste.
Ouais, c'est ça. Mais bon, le groupe mise en demeure est un groupe qui est de musique punk marginale, qui font de la chanson humoristique, engagée, anarchiste. Mais par contre, Jean Charest s'est jamais levé pour condamner d'autres groupes de musique marginaux qui font de la musique, par exemple, néo-nazie, avec des paroles sciemment haineuses et violentes. Mais bon. On voit qu'il y a un petit peu deux poids, deux mesures dans le traitement qui est fait par Monsieur le Premier ministre dans la liberté d'expression.
Les mesures du Premier ministre, c'est ça qui me déplaît, moi.
Mais ça, c'est... Oui.
On n'a pas à vivre selon... Je veux dire,
c'est ce qu'il essaie de...
J'ai encore le droit d'avoir du mise en demeure dans mon iPod.
Ouais. Ben ouais. Mais tout à l'heure, ils vont nous interdire ça. Oui. Vous allez voir.
Alors, je reviens
ça
toujours,
continue.
Oui, non. Je reviens, Madame Daher. Vous estimez, Monsieur Kadir, vous l'avez bien souligné, parce que, à part le fait d'être, vous voyez, dans ce type-là, un homme courageux, un homme qui porte une nouvelle énergie à la société, un homme qui est, avec la grande simplicité, qui porte...
Il est près du cœur, près de tout le peuple.
C'est comme ça les gens, ils le voient, pour, selon vous?
Je suis sûr et certain, s'il a été voté, on l'a voté pour lui, c'est parce qu'il a du bon en lui. Oui. En plus, aujourd'hui même, j'ai écouté dans les nouvelles qu'il y a 5000 employés qui vont être mis à la porte par Zellers, et c'est le seul, lui, le député, M. Amir Kadir, qui est venu pour vraiment intervenir et demander au gouvernement d'agir.
Oui.
Donc je n'ai pas entendu quelqu'un d'autre. C'est toujours lui qui défendent le peuple. Et ça, ça me donne espoir dans l'avenir. En plus, concernant ce qui s'est passé avec les étudiants, je crois qu'il y a eu une grande injustice et c'est un acte criminel de la part du gouvernement donc d'encourager les policiers à venir agir comme ils l'ont fait. Oui. Moi-même, j'ai été dans une manifestation dernièrement et le policier voulait absolument qu'on nous pousse sur le trottoir. Et ils nous disent que c'était pour libérer la circulation, oui. Malgré que c'était eux, n'est-ce pas, qui empêchaient la circulation. Et le monsieur là, les soldats qui étaient devant moi là, ils avaient des bottes comme des bottes de guerriers. Et moi, je suis tellement fine. Et le monsieur et le policier voulaient absolument me pousser pour remonter sur le trottoir. Et je dis, mais monsieur, je suis juste près du trottoir là, et vous êtes en train. Je dis, madame, reculez. Je dis, mais de patienter, je peux pas prendre le même pas que vous, la même. Alors non, ce sont des choses qui sont injustes, qui sont
mais
pas correctes.
Tous les soirs dans les manifestations, je veux dire, les policiers nous insultent, oui. Nous menacent, oui. Nous frappent. Et de façon, je veux dire, moi, avant la grève de 2012, j'étais pas particulièrement anti-flic. Je veux dire, je savais qu'il y avait des abus, mais globalement, je trouvais que c'était, oui, une institution respectable. Maintenant, le problème, c'est que je me rends compte que les cas d'abus sont pas des cas isolés. Et c'est pas seulement une minorité de policiers qui agissent comme ça. En fait, oui, c'est une minorité de policiers qui usent d'intimidation, d'insultes, de menaces et de violences physiques. Par contre, il y a toujours leurs collègues autour d'eux qui restent impassibles face à ça. Moi, j'ai appelé dernièrement, j'ai été insulté et menacé par un policier qui était dans un cordon. J'ai fait appel à ses collègues, je leur ai dit, vous êtes témoin, là, je suis victime d'abus policier. Mais aidez-moi, je suis un citoyen.
Non, abus de pouvoir.
Et on m'a dit, t'es pas un citoyen, t'es un moron.
Voilà.
Recule, va-t'en.
Oui, abus de pouvoir.
Tout à fait.
Étrange. Mais pour vous, là, selon les dires de M. Kadir, comme quoi les policiers étaient respectueux envers, soi-disant, les manifestants, dont je parle d'un incident particulier.
Quand lui a été arrêté.
Particulier, oui. Mais est-ce que vous pensez, vous ne voyez pas qu'il y a des commandes qui sont au-delà de tout, hein?
Des commandes?
Des commandes, oui, c'est des commandes gouvernementales.
Ça vient d'en haut.
Oui. Écoutez, comme je le répète depuis le début, moi je suis dans la tête de personne sauf la mienne. Et je dirais, s'il y a eu des documents qui commandaient aux policiers d'agir de manière plus ou moins abusive envers telle ou telle personne,
je
ne sais pas.
Je ne pense pas, mais.
Non, mais.
Okay, un gouvernement qui essaie de diviser les gens qu'ils doivent négocier avec. Un gouvernement qui essaie de manipuler le monde de cette façon-là.
Par des mensonges!
Mettre l'odieux sur le dos des étudiants, c'est quelqu'un qui n'est pas trop catholique, ce gars-là. Croyez-moi. Il ne mérite même pas d'être sur la Saint-Jean-Baptiste. Excusez-moi.
Oui.
Excusez-moi. Moi, je ne fêterai pas Saint-Jean-Baptiste en forme de deuil.
Mais M. Robertson, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui, justement, à tout le mouvement étudiant qui est. C'est difficile, hein. C'est difficile de trouver des mots, justement. Et pour ces gens qui étaient arrêtés, qui font face au système judiciaire, ouais. Ces gens-là, surtout sur des gens qui sont arrêtés injustement, hein, sont accusés injustement.
En fait, on disait tout à l'heure que
qui risquent d'être derrière les barreaux.
On disait tout à l'heure que le gouvernement essayait d'essouffler le mouvement avec la loi 78 et avec l'été, tout ça. Moi, ce que je dis, c'est que, bon, on a montré jusqu'à présent que le mouvement est fort, le mouvement est solide, le mouvement va continuer et je dis à mes camarades qu'il faut continuer la lutte à tous les soirs.
Oui,
mais, ah oui, tout à fait, mes camarades.
Oui.
Ce sont mes camarades de classe dans le sens du terme.
Mais
en tout cas, vous parlez plutôt de l'humiliation qu'Amir Kadir avait subie lors de son arrestation, comme moi et des milliers d'autres manifestants l'avons subi.
Ouais.
Et au contraire, moi, j'ai eu l'impression que M. Kadir était resté énormément digne là-dedans, tout comme nous le sommes restés, malgré les privations d'eau et tout ça. Et bon, ça me fait penser, on en parlait tout à l'heure, Ordon, à la citation de Thoreau, dont je ne me rappelle pas exactement, mais qui disait quelque chose du genre que lorsque l'injustice devient loi, la place de l'homme libre est en prison.
Voilà, c'est ce qui est.
Ça me fait réfléchir. Je veux dire, moi, quand j'étais arrêté, j'ai pensé à ma mère. Ma mère, je me disais, si elle me voyait avec les menottes présentement aux prises avec les policiers.
Quel sentiment-là?
Qu'est-ce qu'elle ressentirait? Et oui, j'ai eu honte, je veux dire, je me suis senti comme. Mais en même temps,
Normalement, on n'avait pas à voir.
J'y ai repensé, je me suis dit, non, ma mère devrait être fière. Je veux dire, je me bats tous les soirs pour la démocratie, pour les frais de scolarité, pour que mes jeunes puissent aller à l'école. Et je pense qu'on devrait tous être fiers du combat qu'on mène présentement. Et je suis très fier de M. Kadir aussi.
Merci beaucoup. Madame Dahl, avez-vous quelque chose à dire aujourd'hui?
Oui, je voudrais dire, comme il vient de dire M. Robertson, que les mamans, bien sûr, elles sont fières de voir leurs enfants demander leurs droits. Mais bien sûr, on a un pincement de cœur. On est révoltés de voir cette injustice contre nos enfants. Le futur, ce sont le futur du Québec. Et ce n'est pas seulement ici, c'est partout dans le monde maintenant que les étudiants se révoltent parce qu'il y a une grave injustice envers eux. Et s'il y a une minorité qui est encore ignorante, il faut qu'ils comprennent que ce sont les futurs, que ce sont eux qui vont sauver le peuple par leur manifestation. Parce que ce qui s'est passé, c'est que personne n'est occupé de leurs droits, de leurs demandes. Si depuis le commencement, le gouvernement aurait pris la peine d'appeler, c'est la classe, ou d'appeler un groupe de, parmi eux, des responsables.
De négocier avec eux.
Oui, pas seulement pour négocier, mais pour essayer de les aider. Tout ce que nous voulons qu'ils soient aidés.
Merci.
Je me sens, excusez-moi,
je vous en prie,
je suis,
un peu plus vite,
comme je vous ai déjà dit, que je suis une simple citoyenne. Oui. Je me trouve véritablement dans une certaine frayeur de me trouver que je vais être sous le joug de Kadhafi, sous le joug de Moubarak ou de Hafez al-Assad, de voir cette brutalité policière qui s'attaque contre les étudiants pour rien, parce que c'est vraiment, ils demandent leurs droits pacifiquement. En plus, j'ai une amie à moi qui a été arrêtée avec 3 enfants, un bébé et 2 petits-enfants avec son mari.
Dans les manifestations ?
Dans la manifestation qui voulait juste, il passait justement et son mari a été arrêté. Elle a dû aller se rendre avec les 3 enfants au palais de justice. Je l'ai accompagnée pendant que son mari a été arrêté injustement.
Merci Madame Dalle. Monsieur Roland, à propos de la répression.
Moi, ce que j'estime, c'est que notre constitution, il faudra que ça soit rectifié. Lorsqu'un gouvernement sort une loi comme celle de la loi 78, ça devrait être toute la Chambre qui voterait pour, sinon elle ne serait pas acceptée. Comme ça, ça serait vraiment en cas d'urgence, vraiment, qu'une loi pourrait être passée en cas d'urgence, comme je dis.
Voilà, excusez-moi, merci, mais Charest, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la même chose contre les procureurs de la Couronne. Donc, il met à pied, il piétine tous les droits de tout le monde pendant que les procureurs de la Couronne avaient... On a droit à une augmentation.
Voilà, c'est tout le temps qui nous reste de l'émission. Je souhaite remercier mes invités d'aujourd'hui, en particulier M. Julien Ficto-Robertson, parce que c'est bien, il est étudiant en maîtrise à l'université, en philosophie à l'Université de Montréal. Je remercie Madame Perlette Daher d'avoir pris la peine de venir aujourd'hui sur ce plateau. Monsieur Roland Cazès, comme d'habitude, c'est celui qui anime l'émission avec moi. Donc merci à Madame Suzanne Charlon d'avoir veillé sur le son de notre émission. Merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. À moi, je vous donne, chère auditrice, chers auditeurs, un rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.
Bonne chance aux étudiants et espérons une justice vraiment équitable.
Merci beaucoup.
Colorado Footyard Bird, des trains conservateurs,
de creuser sur ton tracteur,
mais on a le droit de trouver cab.
T'as le droit de croire en Dieu,
d'avoir un parcours pieux,
de bafouer avant le mariage,
mais on a le droit de trouver cave.
T'as le droit d'être prouvé,
d'être pour la peine de mort.
T'as le droit à ton avis,
mais on a le droit de trouver cave.
T'as le droit d'être un fickiste,
t'as le droit d'être un fucker.
T'as le droit d'être un fickiste,
mais on a le droit de trouver cave.
T'as le droit d'être bobo,
d'avoir tes 2 chars écolo,
de faire des mohawks à tes flots,
mais on a le droit de trouver cave.
T'as le droit d'être un hipster,
de triper hard campfire,
de te promener en fixie à toute heure,
mais on a le droit de trouver cave.
T'as le droit d'aller sur la place Valois,
de manger au Arielma,
de dire que t'as bib à Oma,
mais on a le droit de trouver cave.
T'as le droit d'être un
rainbow,
vouloir coucher avec des ados,
de te promener pieds nus dans le métro,
mais on a le droit de trouver cave.
T'as le droit d'être anarchiste, de t'habiller comme tes amis, en te disant anticonformiste,
mais on a le droit de te trouver cave.
T'as le droit d'être marginal, d'être toujours gelé comme une balle,
d'étudier au vieux Montréal,
mais on a le droit de te trouver cave.
T'as le droit d'être révolté,
de le clamer dans les assemblées juste avant d'aller travailler. Mais on a le droit de te trouver cap. Tu veux faire la révolution, tu fumes des battes dans ton salon en écoutant nos chansons. Mais on a le droit de te trouver cap.
Stop sur les Antilles. Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, minuit 30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matins, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matins, 8 à 9.
Prenons le temps de mieux comprendre la question des droits de scolarité. Le gouvernement doit être équitable envers tous les citoyens. Il est raisonnable qu'un étudiant contribue à financer ses études à la hauteur de 17 %. La hausse annuelle représente 50 sous par jour. Le Québec conserve les plus bas frais de scolarité et le régime de prêts et bourses le plus généreux au Canada, accessible à 50 % des étudiants universitaires. Maintenant, tout est en place pour que chaque étudiant puisse avoir accès aux études supérieures. Un message du gouvernement du Québec.
Salsa, reggae, samba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, tagamofi, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 102,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.